Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La position de l'OIA est à la fois claire et simple. Nous soutenons entièrement la lutte du peuple africain, de la majorité du peuple de la Rhodésie du Sud. Et nous ferons tout ce qui dépend de nous. Et cela ne doit être un secret pour personne. Nous sommes engagés et engagés sans réticence, engagés sans réserve, à faire en sorte que le pouvoir à Rhodésie du Sud, comme dans le reste du continent africain, revienne à la majorité du peuple.
Après avoir symbolisé pendant 8 ans le visage de la diplomatie africaine, après avoir représenté le continent dans toutes les institutions internationales, Diallo Telli, qui a été remplacé à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine, dont il était le premier secrétaire général, est rentré chez lui, en Guinée. Le président Sékou Touré, qui ne l'a jamais vraiment aimé, en tout cas qui s'est toujours méfié de lui, en a fait son ministre de la Justice. Mais Diallo Telli ne peut plus sortir du pays. Il est en quelque sorte prisonnier dans ce vaste territoire où tous ses mouvements sont surveillés, ceux de sa famille aussi. Suite et fin aujourd'hui de la série que nous consacrons à ce personnage, dont le nom suscite encore des interrogations dans toute la classe intellectuelle africaine. Juillet 1976, Diallo Telli, qui est depuis 4 ans ministre de la Justice du gouvernement de Guinée, est invité à dîner à la présidence avec le chef de l'État. Au bout de la soirée, le président Sékou Touré lui dit ces mots que reprend pour nous son épouse, Kadidi Atou.
Diallo Telli, on ne me surprend pas. Et Telli lui aurait demandé, mais président, qui veut te surprendre? Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Il lui a dit simplement, allez, au revoir Telli. Donc Telli est rentré à la maison à minuit, on est venu le chercher à une heure et demie.
L'ancien secrétaire général de l'OUA va donc rejoindre de nombreuses autres personnalités guinéennes enfermées dans la sinistre prison du Camboiro. Il occupe la cellule numéro 54. Dès son arrivée à la prison, Diallo Telli est soumis à des interrogatoires intensifs. Il y a des séances de torture. Il faut qu'il parle. Un comité révolutionnaire, en gros une commission d'enquête, a été mise en place. C'est elle qui procède aux interrogatoires. Elle suggère également aux suppliciés des aveux écrits. Pendant quelques jours, Diallo Telli va résister. D'autres prisonniers, comme Amadou Diallo Portos, vont même lui passer un message.
Comme lui avait fait transmettre des commissions pour lui dire qu'il fallait qu'il résiste. Franchement, je n'étais pas très sûr de ce que je disais parce que moi, j'ai eu l'expérience de la torture. Je sais qu'on ne peut pas résister à la torture. D'abord, moi j'ai fait 5 jours de diète d'accueil et on m'a amené à la cabine. On vous prend les 2 bras, on les ramène derrière le dos, on tire, on attache au niveau des coudes, on tire la corde jusqu'à ce que vos coudes se rejoignent. À ce moment, on vous attache les pieds avec la même corde. On passe par le parapet, on tire, vous êtes soulevé de terre. Et maintenant, on prend la gégène et on commence à tourner. On vous met, si vous avez la chance, juste au bas-ventre, si vous n'avez pas la chance, dans les parties génitales même. Et on commence à tourner. Mais je vous assure que c'est difficile d'y résister. Je n'ai vu qu'un seul dans tout le parcours de Boiro qui ait pu résister et qui ait survécu. C'était un Libanais du nom de William Gemayel. Les autres, ceux qui ont résisté, sont soit morts à la torture, tels que Paul Stephen, soit ils ont fini par craquer. Moi, je vous assure qu'à la fin, j'étais prêt à tout dire, à dire n'importe quoi. Fadel Gusen, quand on lui a envoyé la décharge de courant, il a crié, il dit arrête, arrêtez, arrêtez. On lui dit non, qui t'a recruté, qui t'a recruté? Il a dit c'est Arsène Lupin, c'est Arsène Lupin. Et on a mis Arsène Lupin. Et ce type a été...
Il ne savait même pas qui était Arsène Lupin.
Il ne savait pas, il ne savait pas. Il paraît qu'à la commission, Ismaël a enlevé Arsène et a laissé M. Lupin. Quand il me torturait, il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mon petit, je te connais bien. Je prenais la garde chez toi, tu étais gentil. Quand tu venais la nuit tard, tu me disais d'aller nous coucher. Il faut leur dire la vérité, sans cela, ils vont t'esquinter et ils ne pourront plus te libérer. Et peut-être même tu vas mourir ici. Il dit, il faut leur dire la vérité. Je dis, mais j'ai dit toute la vérité, je ne connais rien de tout cela. Il dit, non, ce n'est pas cette vérité qu'il faut dire. Il faut leur dire la vérité du ministre. C'est-à-dire la vérité que le ministre veut entendre.
Le 30 juillet 1976, Diallo Télé va donc craquer et accepter de rédiger puis d'enregistrer ses aveux. La vérité du ministre. Quelques jours après, la Radio Nationale Guinéenne diffuse ses premiers aveux. Il reconnaît sa participation à une tentative de putsch contre le président Sékou Touré. Mais cette première confession n'est pas suffisante pour le président Sékou Touré. Pour lui, il n'a pas tout dit. Il faut le faire parler à nouveau. Après deux nouvelles semaines de torture, le 22 août 1976, le peuple guinéen peut écouter les nouveaux aveux de Diallo Télé, l'ingrat comme l'appelle le président Sékou Touré. Petit extrait lu par Stanislas Ndaïchimiye.
Je présente de sincères excuses au peuple de Guinée, à son parti État et à son guide. Je sollicite la clémence du responsable suprême de la Révolution pour me permettre de me racheter par mon travail et mon dévouement et me permettre enfin de payer une partie de mes dettes au peuple de Guinée. C'est à Washington, en 1971, lors d'une mission de l'OUA aux États-Unis, que le secrétaire d'État américain Henry Kissinger m'a demandé, au cours d'un entretien spécial, ma collaboration en vue de défendre et de préserver les intérêts américains en Afrique, et particulièrement en Guinée. En retour, il m'a promis, dans la plus grande discrétion, la solution de toute difficulté que je porterai à la connaissance de son gouvernement. Dans l'immédiat, il promit l'assistance de son gouvernement pour ma réélection à Rabat en juin 1972. Par la suite, l'ambassadeur Sherman, du Libéria, m'a contacté à Conakry pour le compte des États-Unis. Mon recrutement à la CIA remonte à fin novembre 1974, après mon retour d'une longue cure médicale de près de 3 mois en Roumanie. L'ambassadeur Sherman, multipliant ses marques de sympathie et d'intérêt, ainsi que ses visites à mon domicile, me proposa de m'aider à améliorer mes conditions matérielles et autres dans la plus grande discrétion. À cette fin, il m'offrit d'utiliser mon expérience et mes relations pour aider les États-Unis à protéger leurs intérêts nationaux en Guinée et en Afrique. J'ai accepté cette proposition à la condition expresse que la coopération envisagée soit entourée de la plus grande discrétion. Dans ce cadre, j'ai fourni au gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de Sherman, des renseignements réguliers sur les grands événements de la vie intérieure guinéenne, ainsi que sur sa politique africaine et internationale. Après le renversement de la situation, je devais assurer les fonctions de chef d'État. Mais, par précaution, j'ai préféré confier la direction du pays à un état-major militaire, compte tenu des aléas et des incertitudes sur le succès final. Seule, en effet, une telle précaution pouvait permettre de faire volte-face et, au besoin, d'amoindrir les conséquences du désastre en cas d'échec. Cette technique, qui permet aux auteurs réels de coups d'État de rester au début dans l'ombre, a été souvent utilisée avec succès lorsque le renversement de la situation demeurait un grand point d'interrogation, quelles que soient les précautions prises, ce qui est indiscutablement le cas en Guinée.
Tirno Diallo Télé, lorsque vous avez écouté ces aveux de votre père à la télévision, reconnaissant qu'il travaillait pour la CIA et qu'il préparait un putsch, qu'est-ce que cela vous a fait? Quelle a été votre réaction?
On a éclaté de rire quand on a entendu la bande la première fois, malgré le dramatique de la situation, parce qu'il a truffé sa soi-disant déclaration d'erreur grossière, exprès. Il prétend dans l'enregistrement qui est fait que chez nous, à Mali, et c'est sa femme qui est de Mali, lui n'est pas de Mali. Donc ça, déjà, c'est inimaginable dans la bouche de mon père. Deuxième erreur grossière qu'il a ajoutée, il annonce que le secrétaire d'État Henry Kissinger, il a incorporé dans la CIA. Malheureusement pour le régime de Sékou Touré qui a concocté ces mensonges, Henry Kissinger était National Security Advisor, conseiller à la sécurité nationale à l'époque. C'est William Rogers qui était le secrétaire d'État des États-Unis quand mon père était secrétaire général de l'OUA. Et ça, les Guinéens, ils sont souvent des grands ignorants de l'histoire, l'ignoraient complètement. Donc, il nous envoyait un message de sa cellule, nous disant que ces déclarations n'étaient pas volontaires. Il ne pouvait pas faire des erreurs aussi grossières.
C'est vrai que ceux qui ont aidé Diallo Telli à rédiger cette nouvelle confession n'étaient pas très futés sur ce coup, puisque ses aveux sont truffés d'inexactitudes, d'erreurs que Diallo Telli n'aurait jamais admis, comme le fait d'indiquer qu'il a rencontré Henry Kissinger en 1971. À cette date, il n'était pas encore secrétaire d'État. Il ne sera nommé à ce poste qu'en 73. Et puis l'Afrique n'était pas vraiment le rayon d'Henry Kissinger, pour qu'il consacre un entretien spécial à recruter Diallo Telli pour la CIA. Monsieur André Lévin, vous qui avez par la suite rencontré Henry Kissinger, qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de cette accusation ?
J'ai essayé d'obtenir de Kissinger un témoignage là-dessus, mais malheureusement Kissinger n'a jamais répondu. Alors est-ce que c'est une manière pour lui de ne pas vouloir prendre position ? Je ne sais pas.
Monsieur André Lévin, vous qui étiez l'ambassadeur de France en Guinée à cette époque et qui étiez même un proche de Sékou Touré qui vous recevait régulièrement, dans ses aveux, vous avez également été mis en cause. On vous accusait d'être mêlé à ce complot. Vous nous avez raconté votre entrevue avec le président Sékou Touré, à qui vous avez expliqué que c'était faux et qui ne vous a pas cru, pensant même que la démission de Chirac en 76 était la conséquence de son soutien à l'opposition guinéenne de l'extérieur. Giscard lui aurait réclamé sa démission pour cela, selon lui. On sait que ce n'est pas pour cette histoire qu'il a donné sa démission. Mais en réalité, est-ce qu'à un moment, la France n'a pas vraiment pris contact avec Diallo Telli pour remplacer Sékou Touré, qui n'était pas très arrangeant, il était versatile avec Paris? Après tout, Diallo Telli avait le profil qui convenait à Paris. Il était francophile et moins paranoïaque. Le pays qui aurait pu prendre contact avec lui, c'était, il faut le reconnaître, la France.
Oui, moi, le premier de ces pays, ça aurait été la France. Parce que Diallo Telli avait été fonctionnaire français, fonctionnaire de la France d'outre-mer.
Mais est-ce que vous n'avez pas reçu, vous, ambassadeur de France, ou auprès de vous, ce qui constituait peut-être le corps militaire et autres, des instructions, des recommandations pour pouvoir le placer à la place de Sékou Touré à un moment donné?
Pas la moindre, non. J'ai même, comme il me disait qu'il était inquiet, je me posais la question et je lui ai dit, pas aussi brutalement, parce que je n'imaginais même pas qu'il serait arrêté aussi vite, mais enfin, je lui ai dit que si un jour il voulait se aller dans un endroit où il pourrait se sentir rassuré, l'ambassade de France serait à sa disposition.
Ça aurait probablement... Vous ne le pensiez pas?
Je le pensais et je l'aurais fait, tout en sachant que ça risquait de compromettre sérieusement mes relations avec Sékou Touré, du coup, entre Paris et Conakry. Mais j'avais tellement de sympathie pour Diallo Telli que je l'aurais fait, en espérant ensuite arriver à le faire évacuer, ou je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais reçu la moindre... J'avais au contraire...
Pas même vos collaborateurs, qui étaient peut-être des services de renseignement, oui, qui étaient peut-être des services de sécurité.
Il y en avait un que je connaissais bien et que je contrôlais soigneusement. Il y en a qui venaient, par exemple, il y a un bâtiment de la Marine nationale qui est venu pour un premier voyage, une escale de courtoisie au port de Conakry, et je savais qu'à bord, il y avait des officiers du deuxième bureau. Et je les ai pris à part, j'aurais dit, premièrement, faites pas de conneries, dans Conakry, tenez-vous bien, on organise une soirée dansante, des ministres et autres, et peut-être même le président vont vous recevoir, etc., etc.
Quoi qu'il en soit, les aveux suggérés et soutirés à Diallo Telli vont permettre au président Sékou Touré de justifier le terrible complot ourdi pour toute une ethnie. Et ses discours contre toute une partie de la population guinéenne, les Peuls, qui représentent 40% de la population, vont être d'une rare violence, presque un appel au massacre. Petit extrait de son discours prononcé à la radio guinéenne pendant cette période au peuple. Il est lu par notre confrère Soro Solo.
L'on a inculqué aux Peuls l'idée qu'il n'est pas noir. Et certains vont jusqu'à la recherche de leurs origines en Somalie, en Éthiopie ou ailleurs, et refusent de vivre leur temps, leur espace et de comprendre leur peuple. Cet esprit raciste a eu une influence néfaste sur beaucoup d'intellectuels. Mais quelle en était la réalité? C'est que, intellectuels qu'ils étaient, ils n'étaient pas avec des masses populaires, lesquelles étaient abandonnées à elles-mêmes. il cherchait plutôt de manière opportuniste à vivre en bon terme avec les chefs de village et de canton, avec le régime colonial, et certains d'entre eux n'ont obtenu de grands diplômes qu'au prix de leur obséquiosité. Quand un homme, comme le faisait le raciste intellectuel Peul, se vante d'être intelligent, c'est qu'il est tout simplement bête. Nous utiliserons la force brutale contre ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Ils sauront qu'on n'a jamais eu peur d'eux, qu'on les respectait, mais que, comme ils n'aiment pas le respect, nous leur présenterons ce qu'ils aiment, la force brutale. Le peuple suit l'attitude raciste de certains cadres qui, une fois à la tête d'une société, d'une entreprise, d'un service, ne recrutent que les seuls peuls. Et quand les cadres peuls sont nombreux dans un service, c'est tout de suite la paralysie totale. Nous le disons en vous donnant un exemple que vous connaissez bien parce que vous le vivez. Si nous, nous nous vantons d'avoir formé beaucoup d'ingénieurs des travaux publics, prenez la liste et vous verrez que ce sont nos frères peuls qui sont les plus nombreux. Mais regardez à Conakry même, quel est l'état des routes? Les choses sont claires. Comme nous l'avons dit, de longues années durant, la Guinée a subi la dictature raciste peul dans l'attribution de bourses d'enseignement supérieur à l'extérieur. Nous vous posons la question. Puisque dans plusieurs familles peul, le pays a attribué des bourses à un, deux, trois, voire quatre de leurs enfants qui, au terme de leurs études, ont trahi la nation pour se réfugier ailleurs et combattre le régime guinéen. Devons-nous continuer à leur accorder des bourses? Cependant, pour l'extérieur, il ne sera plus attribué de bourses au peul aussi longtemps que ceux restés à l'extérieur n'auront pas rejoint la patrie. Alors, nous proclamons sans détour, racisme égale racisme. Pour l'illustrer, nous vous rappelons ce proverbe africain qui dit « Lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, piétinez-le pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. » La trahison, encore une fois, ne paie pas. Et ceux qui avaient trahi Alpha Yaya, Gamissou Diallo, ceux qui avaient trahi Bokar Biro Barry, ne peuvent pas avoir des enfants ayant une conduite de dignité si ceux-ci ne se confient pas au PDG, l'organisation révolutionnaire capable d'extirper de leur tête jusqu'à la racine la félonie de leur père, car il y a une continuité historique qui marque d'une tare et d'un sceau indélébile la personne et la vie des individus.
Monsieur André Lévin, vous qui l'avez côtoyé de très très près, d'abord pendant les négociations qui ont abouti au rétablissement des relations avec Paris, ensuite en tant qu'ambassadeur de France en Guinée, vous le rencontriez régulièrement. Pourquoi détestait-il tant les peuls?
Il y a une histoire que l'on m'a racontée, dont je ne sais pas si elle est vraie. Un marabout avait dit à Sékou Touré, quand il était relativement jeune, « Ton pouvoir s'arrêtera lorsque le Fouta bougera ». Et évidemment, maintenant, avec le recul, on se rend compte que lorsque le Fouta a bougé, ce sont les tremblements de terre très inattendus qu'il y a eu à la fin de 1983 et au début de 1984. Mais jusque-là, il est tout à fait possible que Sékou Touré ait pris ça pour le Fouta, c'est-à-dire les habitants du Fouta, et qu'il en ait conçu une espèce de haine ou de méfiance, en tout cas vis-à-vis des peuls en général.
La violence des propos est à peu près à la mesure de ce qui attend ces cadres peuls. Et Diallo Telli est leur chef de file. Les moments qui vont suivre vont être particulièrement difficiles pour eux. Désormais, la guerre est déclarée. Nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série consacrée à Diallo Telli. Rendez-vous donc juste après le journal. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de The Magazine consacrée à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
C'est l'empereur Aliou Sélassié invite M. Diallo-Tilly à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général.
Moi, Gambon Sédi Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine.
Après avoir permis à la Guinée, son pays, d'accéder dès 1959 à l'ONU, après avoir en tant que secrétaire général de l'OUA symbolisé pendant près d'une décennie la diplomatie africaine, Diallo-Tilly qui a choisi à la fin de son second mandat de rentrer dans son pays, malgré les mises en garde de ses proches et de quelques chefs d'État, voit se refermer sur lui l'étau dont lui parlaient toutes ces personnes. Il a été arrêté et enfermé sans même avoir été démis de ses fonctions de ministre de la Justice dans la sinistre prison du camp Boiro. Et après quelques jours de torture, dont un passage à la cabine technique, il a craqué et lu les aveux que lui ont proposés les membres du comité révolutionnaire chargé de l'interroger. Même si ces aveux, diffusés sur la puissante et très écoutée Radio Nationale, comportent de nombreuses incohérences, ils sont suffisants pour corroborer, pour confirmer le fameux complot Peul dont parle le président Sékou Touré. La guerre est désormais déclarée à toute une ethnie, les Peuls. Et les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté.
Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces Peuls. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord. Et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider. Mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix.
Désormais donc, le Peul, notamment le cadre, est traqué, persécuté et exécuté par le régime de Sékou Touré. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Le martyr de Diallo-Tilly, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Madame Kadidiato Diallo-Tilly, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles?
On ne l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettre.
Tierno Diallo-Tilly, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père?
On n'a jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant de la minute où il est parti. J'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du camp Boiro. J'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Les certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général passaient. Remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le camp Boiro, il y a des veuves qui ont dit « Mais non, la semaine dernière, on m'a demandé d'envoyer des chemises », alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas.
Jusque dans sa prison, Sékou Touré continue de faire pression sur Diallo-Tilly. Il lui écrit souvent. Petit extrait d'une de ses lettres.
« Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu. Nous pouvions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance. Nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple. Nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire. Jusqu'ici, nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi. Car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance, là où tu es aujourd'hui, tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi. L'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée, nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays, largement ouvert sur le reste du monde. En vantant tes mérites créés de toutes pièces, la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la République française a accepté de rendre à notre peuple. Désormais, ton sort est lié à ta sincérité pour le parti État de Guinée. En pensant que pour une fois, tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple.
Diallo-Tilly, qui trouve désormais son réconfort dans l'islam, ne se fait aucune illusion sur son sort. C'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sékou Touré. Petit extrait d'une de ses lettres. L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la République de Guinée à la suite d'un coup de force. Très sincèrement, entre nous, soyons sérieux. Tu sais que j'ignore tout de ce scénario. Depuis que je suis dans la cellule 54 au camp Boiro, mon seul souci est de savoir comment trouver la voie de mon créateur. Pour cela, je m'emploie à le prier pour implorer son pardon. Fin de citation. Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. Mais je t'ai découvert à Boiro et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que j'ai dit. Vive la justice et la liberté. » Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle, ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. « Barrage, barrage, barrage !» Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Omar Barry, Sissavane Souleymane, Diallo Telli et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D signifiant « diète noire » est tracée sur leur porte, ce qui signifie en fait qu'ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diète noire est interrompue pour Sissavane, qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo Telli, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef de poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer de l'air. Et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède de suite de la diète noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Portos Alpha Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite?
On l'a mis dans une couverture et sale, et là, une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je...
Les charniers.
Des charniers, exactement, vous me passez le mot.
Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telli y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Thierno Diallo Telli, vous avez pu vérifier cette information?
Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque. L'association des enfants des victimes du camp Boiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977, en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. Et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo. C'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempête qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont pris sur le trou et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes.
Plusieurs mois après, la famille de Diallo Telli n'est toujours pas au courant de sa mort. Aucune information ne filtre de cette prison pourtant située en plein cœur de Conakry. Même les rares prisonniers qui sont libérés restent muets sur ce qui s'y passe. Comment expliquez-vous cela, Portos, vous qui avez finalement été libéré?
On nous prévient à la libération. Si vous révélez quoi que ce soit de ce qui se passe dans le camp, je l'ai d'ailleurs mis dans la vérité du ministre, on vous reprendra et cette fois-ci, ce sera sans pardon.
Madame Kadidia Toudialotelli, vous espériez toujours qu'il était en prison pendant tout ce temps, jusqu'en 1979?
Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais vous savez, dans ces conditions-là, on se dit toujours, peut-être, on ne sait jamais. Mais nous n'avons pas été informés pratiquement jusqu'à la sortie de Diop Alassane. On n'a pas su qu'il était mort. Finalement, quand Diop Alassane est sorti de prison, un de mes enfants, l'aîné, a fui la Guinée et est arrivé à Dakar.
Tierno.
Tierno a rencontré Diop Alassane qui lui a confirmé que son père était mort.
C'est vous donc, Tierno Diallotelli, qui informez votre mère de la mort de votre père?
Dès que j'ai fui la Guinée en 79, je suis arrivé à Dakar. L'ancien ministre Diop Alassane, qui avait été le premier ministre de l'information de la Guinée, avait été libéré à la demande du président Senghor et réexpédié dans son pays d'origine. Il m'a fait rechercher, amener chez lui et m'a informé que mon père était mort de faim et de soif le 1er mars 77 au Kumbaro. Il était un des témoins oculaires. En même temps que le ministre Portos, le ministre Gomez, ils étaient tous là témoins.
Malgré cette information, cette fuite que vont amplifier les médias internationaux, Sékou Touré continue de nier la mort de Diallotelli. Il s'insurge contre la presse qui en fait mention. Lundi 26 mars 1984, moins de 7 ans après la mort de Diallotelli, la radio nationale guinéenne annonce la mort de Sékou Touré de suite d'un accident cardiaque. Quelques instants après cette annonce, l'une des premières décisions prises par le régime du colonel Lansana Conté qui prend le pouvoir est l'ouverture du sinistre Camboiro et la libération des détenus encore vivants. Il demande la réhabilitation des victimes et la restitution de leurs biens. Le monde entier découvre alors l'horreur du régime de celui qui avait symbolisé pendant un moment le panafricanisme et la résistance aux colons. Madame Kadidia Toudialotelli, après cela, avez-vous enfin eu des informations sur l'endroit exact où votre mari a été enterré?
Nous avons entendu dire qu'il est enterré au cimetière de Nongo, dans la banlieue de Conakry. Nous n'avons jamais vu de tombe. Nous n'avons jamais eu une information sûre. On n'est même pas sûr qu'il est à Nongo. Nous avons demandé un certificat de décès. Jusqu'à ce jour, encore, on le demande et on ne l'a pas obtenu.
Madame Kadidia Toudialotelli, je sais que vous vivez au Canada, mais êtes-vous souvent retournée en Guinée?
Vous savez, j'ai la nationalité canadienne. J'étais à Conakry et l'ambassade du Canada m'a envoyé une commission discrète pour me demander de partir du pays. J'avais créé la fondation Diallotelli et j'étais en train de mener cette fondation. Je pense que c'était un peu dérangeant pour le pouvoir et pour certains partis politiques. J'étais vraiment menacé et les Canadiens m'ont demandé de partir parce que la recherche des charniers, j'avais trouvé le charnier de Nongo, les deux charniers à Kindia. Je commençais à être gênante. Les Canadiens ont eu des informations qui les ont amenés à me demander de partir. J'ai donc quitté. Ça fait près de 6 ans maintenant que je ne suis pas reparti à Conakry. On me dit que les choses évoluent.
Ils sont ainsi plusieurs centaines en Guinée à ne pas savoir où ont été enterrés leurs proches. Aujourd'hui, ils ont créé une association des enfants des disparus du Camboiro qui milite non seulement pour la réhabilitation de leurs parents, mais également pour que la lumière soit faite sur cette période et que les charniers soient tous montrés. Le ministère de la Réconciliation et de la Solidarité a été même créé sur place par le régime Conté. Tierno Diallotelli fait partie de l'association des enfants des victimes et des disparus du Camboiro, qui a d'ailleurs été reçu par Madame Henriette Conté, l'ex-première dame.
Nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait panser les plaies, mais dans la mesure où on respectait nos parents disparus. On cessait de les accuser de traîtrise, alors qu'aucun d'entre eux n'a été traître, aucun n'a été jugé. Ils ont été assassinés par un président et une assemblée nationale assassine, sans aucun procès, sans aucun secours judiciaire. Donc, nos appels aux radios libres de plusieurs enfants de disparus ont attiré l'attention de la première dame, Madame Henriette Conté, qui nous a demandé bien gentiment de venir lui rendre visite à sa résidence. Elle a reçu les familles des victimes, les enfants, les survivants, et les veuves, et elle nous a dit qu'il n'y aurait pas de mamaya, ils appellent ça ici, c'est-à-dire de danse érontée dans les rues de Conakry pour le 2 octobre, qu'on n'aurait pas séché les larmes de nos mamans éplorées, les veuves du Camboiro. Donc je n'ai pas été étonné vraiment que, probablement sur son insistance, nous avons obtenu enfin la création de ce ministère de la réconciliation et de la solidarité. Et je crois que c'est enfin le bon bout. Maintenant, oseront-ils aller jusqu'au bout, parce que ils ont tellement embrassé et étreint Sékou Touré qu'il est difficile aujourd'hui pour ces gens-là de lui cracher dessus. Sékou Touré est un assassin comme Adolf Hitler, comme Staline, comme beaucoup d'autres.
Que celui qui veut tuer son adversaire se demande si ce n'est pas la meilleure façon de l'éterniser. C'est sur cette réflexion de Friedrich Nietzsche que j'ai découvert dans la précieuse biographie de Diallo-Telli que vous avez écrit, monsieur André Lévin, et que je conseille fortement à nos auditeurs, que se termine notre série consacrée à ce personnage dont l'histoire passionne encore de nombreux Africains. À lire également le livre de Alpha Abdoulaye Diallo, plus connu sous le pseudo de Porthos. Le titre, 10 ans dans les geôles de Sékou Touré, ou la vérité du ministre, publié chez l'Harmattan. Merci, messieurs et dames, pour votre éclairage. Merci également à Stanislas Ndaïchimier et Soro Solo de RFI pour leur précieux concours dans la réalisation de cette série. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Ma woyo ni da yo.